France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Le mot bipolaire est de plus en plus médiatisé et parfois utilisé à tort. Cette maladie grave, qui sans prise en charge peut mettre en danger la vie du patient, touche 3% de la population française. Comment la psychiatrie définit-elle la bipolarité ? Le patient bipolaire connaît au cours de sa vie des épisodes dépressifs et maniaques, entrecoupés de périodes de stabilité émotionnelle. Une maladie complexe, difficile à identifier. Il faut généralement attendre 8 à 9 ans avant la pose d'un diagnostic. Mais sa prise en charge a profondément changé. Les traitements sont devenus plus efficaces, avec moins d'effets secondaires. Certaines avancées technologiques offrent de nouvelles perspectives. Et enfin, la déstigmatisation de cette pathologie représente une autre voie d'amélioration essentielle. Trouble bipolaire vers la fin d'un cycle. Chantal Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université Paris-Cité, praticien à Sainte-Anne et directrice scientifique de la Fondation Deniker. Nous sommes en ligne également avec Pierre-Michel Lorca. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, professeur de psychiatrie et chef de service au CHU de Clermont-Ferrand. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil d'actu sur Blue Sky, sur notre compte @sciencecqfd. On publie pour vous tous les jours de nombreuses ressources complémentaires. Alors depuis quand la bipolarité est-elle reconnue et définie? Quels sont les faisceaux d'indices qui permettent d'orienter le diagnostic? Et comment cette maladie est-elle prise en charge? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais tout d'abord, la parole est donnée aux patients. C'est notre archive du jour, nous sommes en 1979.
Eh bien voilà, il faut que je dois vous dire que je suis un maniaco-dépressif. Alors, maniaco, ça veut dire excitation sous délire. Nous sommes dans un état second. Nous ne nous rendons pas plus compte du tout de ce qu'on fait. Et après, nous passons dans la phase dépressive. Et dans cette phase dépressive, nous nous reprochons de ce que nous avons fait dans la phase maniaque. Nous sommes soignés par neuroleptiques pour arrêter la phase maniaque. Bien entendu, c'est des moments difficiles, ça serait très long parce que j'ai eu plusieurs crises. Je reconnais que je suis un malade mental. Et je me présente en tant que malade mental. C'est une maladie qui est très dure, qui est très difficile et qui est triste. J'essaye de lutter, c'est pour ça que mon épouse a écrit à la télévision pour que vous puissiez venir me voir et dire au public que nous, les malades mentaux, on a un peu les délaissés, les oubliés, et que c'est avant tout une maladie. Il ne faut pas dire fou, parce que fou, c'est des histoires de fou, ça n'existe pas. Il faut dire malade mental, c'est déjà assez malheureux comme ça.
Voilà un extrait de l'émission semblable et différent dans Aujourd'hui Madame, diffusée sur France 2 en 1979. Chantal Henry, quelle est votre réaction à l'écoute de ce témoignage?
D'abord, je trouve ça très émouvant, évidemment. On peut noter qu'il parle de psychose maniaco-dépressive. C'est une terminologie qui a été abandonnée. Et il met en avant que pendant les phases maniaques, il a un état délirant, en fait. Et on sait qu'on a abandonné ce trouble, cette terminologie de psychose, parce que il n'y a que 50% des épisodes maniaques où on va avoir des symptômes psychotiques. Mais il y a beaucoup de troubles où on n'a pas du tout de symptômes psychotiques. C'est pour ça qu'on a renoncé à cette symptomatologie, à mon avis, à très juste titre.
On entendait dans ce témoignage, hein, c'est une maladie très dure. Votre réaction, vous aussi, Pierre-Michel Lorca, à l'écoute de cette archive?
En fait, effectivement, c'est très émouvant. Et puis, il souligne, il martèle la notion de stigmatisation, l'utilisation des mots, l'importance, le soutien de son environnement familial, la volonté de témoigner. Et c'est à la fois très émouvant et très actuel. Donc, je trouve que, bon, malheureusement, les choses ont évolué, mais compte tenu du délai depuis cette archive, on aurait espéré que ça évolue plus que ça. Mais je trouve qu'il montre une capacité de parler de la maladie qui est tout à fait remarquable.
Alors, la bipolarité, c'est cette maladie chronique. Chantal Henry, vous préférez le terme de maladie récurrente. Comment se manifeste-t-elle?
Alors justement, parce qu'elle va se manifester de manière récurrente, chronique, la vulnérabilité reste chronique finalement, mais on va avoir des épisodes, comme le décrivait très bien Spassion, des épisodes d'exaltation, soit maniaque, soit hypomane, ce sont les mêmes symptômes mais avec une sévérité moindre, et des épisodes dépressifs. Mais on peut avoir des épisodes, des intervalles critiques en fait, intercritique plutôt, où on va être indemne de symptômes majeurs en tous les cas. Voilà, donc c'est important d'insister sur le fait que c'est récurrent, parce que si on arrive à contrôler les épisodes, on va pouvoir avoir un fonctionnement à peu près... on va pouvoir avoir un fonctionnement qui est à peu près satisfaisant.
Alors, en effet, ces périodes de stabilité émotionnelle, Pierre-Michel Lorquet, c'est ce qu'on appelle aussi la normotimie.
Oui, l'eutimie ou la normotimie, ça veut dire que la régulation émotionnelle, si on doit évoquer cela, qui est un élément important, est une régulation qui est, on va dire, habituelle. Comme on peut tous le ressentir, c'est une capacité à maîtriser nos émotions positives ou négatives. La différence, c'est que dans les épisodes, qu'ils soient dépressifs ou maniaques, qu'on vient d'évoquer, en fait, dans ces cas-là, on a des émotions qui sont intenses et mal modulées. Donc, soit dépressives, soit des émotions tristes, soit des émotions d'exaltation, qu'on n'arrive plus à moduler. Elles restent sur une modalité toujours identique, alors que dans notre vie, quand on est confronté à des événements gays, on peut être joyeux, des événements tristes, on peut être abattu, mais on arrive à moduler et à se récupérer, c'est ça l'eutimie. La phase de maladie, c'est des moments où on ne module plus les ressources émotionnelles dont on dispose les uns et les autres.
Ces épisodes dépressifs, en général, environ 75% des personnes bipolaires présentent une prédominance dépressive.
Oui, où vont pouvoir commencer par des épisodes dépressifs en fait, et donc les épisodes où des épisodes d'exaltation vont passer inaperçus, ou vont être sous le radar finalement, et c'est ce qui va faire la difficulté à faire le diagnostic.
Pierre-Michel Lorquet.
Oui, c'est vraiment un élément très important, puisqu'effectivement, les patients qui souffrent de troubles bipolaires ont au total sur la population plus d'épisodes dépressifs, mais il y a des gens qui ont plutôt plus d'épisodes maniaques, donc ça c'est un élément important, mais surtout la phase d'exaltation, comme l'a évoqué le professeur Henri tout à l'heure, c'est soit des phases qui sont très intenses, de manie, comme l'évoquait le patient qui témoignait tout à l'heure, ou bien c'est des épisodes d'exaltation moindre, on parle d'hypomanie, et en fait ces épisodes d'hypomanie peuvent passer vraiment inaperçus, parce que c'est quelqu'un qui est infatigable, qui a plein d'activités, qui fait plein de choses, ça peut être très valorisé socialement. Et en fait, c'est très trompeur, puisqu'en fait, c'est déjà un élément de la maladie, mais qui n'a pas une intensité qui entraîne des problèmes de comportement, par exemple, ou des idées mégalomaniaques, on pense qu'on est tout puissant. Et dans ce cas-là, une dépression qui survient ultérieurement, eh bien, on ne prend pas forcément en compte, et c'est un problème de repérer de manière très précise ces épisodes-là, parce que c'est un risque à ce moment-là d'errance diagnostique et de ne pas utiliser les stratégies thérapeutiques les plus appropriées.
Alors la cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la fameuse cinquième édition du DSM, définit les troubles mentaux en posant des critères diagnostiques très stricts. Il distingue deux principaux types de bipolarité. Alors déjà, comment se caractérise le trouble bipolaire de type 1, Chantal Henry?
Alors le trouble bipolaire de type 1, ça va être l'alternance d'épisodes dépressifs et de phases d'exaltation maniaque. Ces phases d'exaltation maniaque sont suffisamment sévères pour généralement nécessiter une hospitalisation en fait. Et sur ces épisodes maniaques, peuvent se greffer des idées délirantes ou des hallucinations. Dans le trouble bipolaire de type 2, en fait, on va avoir la même symptomatologie d'exaltation, mais avec une intensité bien moindre. Par contre, les épisodes dépressifs sont de même intensité. Donc, on ne peut pas parler d'un trouble qui est le trouble bipolaire de type 2 qui serait moins sévère, parce que le risque suicidaire reste le même.
On va parler dans quelques instants du risque suicidaire, mais par rapport justement à ce trouble bipolaire de type 2, c'est dans ce trouble-là qu'on voit justement ces formes d'hypomanie, cette forme plus modérée, entre guillemets, de manie, c'est-à-dire des petits états d'exaltation.
Oui, alors comme le disait Pierre Michel tout à l'heure, on va avoir des émotions qui sont ressenties de manière assez forte et c'est une période de sur-régime finalement. Les gens vont être beaucoup plus actifs, vont avoir une grande énergie, vont moins dormir mais sans ressentir de fatigue, mais sans que ça occasionne de gros débordements et des troubles du comportement qui peuvent les faire se mettre en danger. Parfois même certains patients, troubles qui fonctionnent mieux parce qu'ils ont un petit peu plus d'audace, ils sont plus entreprenants. Alors, ça peut souvent perturber les relations interpersonnelles parce qu'ils sont plus impatients, plus irritables. Voilà, mais souvent, les patients interprètent ces épisodes comme un juste retour des choses parce que quand ils ont passé des mois en phase dépressive, en fait, ils se disent bah, c'est normal, finalement, je croque la vie et je rattrape le temps perdu. Et donc, ils ne vont pas consulter parce qu'ils ne le perçoivent pas comme pathologique.
Et puis, ce sont des symptômes aussi qui sont généralement valorisés dans le monde du travail aussi, quand on parle de surproductivité.
Exactement.
Mais par rapport à ces différents épisodes, Pierre-Michel Lorca, est-ce qu'il existe une fréquence, une régularité dans ces cycles ?
Non, il y a vraiment des variations entre les individus, mais aussi au cours de l'évolution. Parfois, bon, il y a quelques personnes qui, un faible pourcentage, qui peut avoir ce qu'on appelle des cycles rapides. Ils font de nombreux cycles dans une même année, par exemple. Mais c'est une minorité. Et c'est plutôt des fluctuations qui sont extrêmement variables avec parfois, souvent, dans la phase initiale, plutôt le jeune âge adulte, plusieurs épisodes dépressifs avec des épisodes d'hypomanie qui passent inaperçus, qu'on ne repère pas, qui ne sont pas repérés. Beaucoup de traitements de la dépression sont donnés par des collègues médecins traitants, médecins généralistes, qui n'ont pas forcément une stratégie de repérage spécifique. Et en fait, au bout de ces 2-3 épisodes dépressifs qui surviennent dans la vingtaine, on a un épisode hypomane plus intense ou un épisode de manie et qui décompense sur ces modalités-là. Mais comme il est difficile de dire et dans le temps, sur l'évolution, le temps long, c'est-à-dire sur plusieurs décennies, on a des gens qui modifient leur cycle avec soit un ralentissement, quand le traitement, le rythme de vie sont bien stabilisés, on peut avoir un ralentissement des cycles avec des épisodes très peu fréquents, et puis parfois on a une accélération des cycles dans des évolutions qui sont plus difficiles à maîtriser en termes de stratégie thérapeutique.
Voilà, on a donc des symptômes qui peuvent paraître inaperçus, mais on parle quand même d'une maladie grave avec des risques sérieux. D'après l'INSERM, il s'agit de la 6e cause mondiale de handicap. De plus, les troubles bipolaires sont donc associés à une réduction de l'espérance de vie de 10 ans, Chantal Henry.
Oui, plusieurs choses pour expliquer cette réduction de l'espérance de vie. D'abord le suicide. 15% des patients bipolaires non traités vont se suicider. Ce qui est très important, c'est la durée en fait entre le début des symptômes et le diagnostic. Il va y avoir souvent des tentatives de suicide dans cette période est à gros risque aussi également.
Et par rapport justement peut-être à la qualité de vie, on parlait de ces troubles qui engendrent une réduction de l'espérance de vie. On a aussi des pathologies associées.
Bien sûr. Alors il va y avoir des troubles associés. Alors des troubles psychiatriques, en fait, on peut avoir des addictions, en fait. Les gens, quand ils ne sont pas bien, vont avoir recours à des euphorisants, en fait, de l'alcool ou du cannabis ou des toxiques, qui malheureusement vont aggraver la pathologie. Il y a des troubles anxieux qui vont souvent se greffer sur ces troubles, sur ces fluctuations de l'humeur. Et puis également des pathologies somatiques, en fait, des troubles cardiovasculaires, du diabète, et tout ça concourt à réduire l'espérance de vie des patients.
Alors en effet, du côté des addictions, hein, je crois que c'est dans 50% des cas, les patients bipolaires auront recours, ont au cours de leur vie des problèmes d'addiction. Sur le plan somatique, Pierre-Michel Lorca, comment ça s'explique ça, le fait qu'on observe un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires et du diabète pour les patients atteints de troubles bipolaires?
On a trois grandes causes, on va dire. D'un côté, il y a des déterminants génétiques qui sont communs entre troubles bipolaires et notamment le diabète, et donc avec probablement une vulnérabilité d'origine génétique plus importante au diabète chez ces patients-là. Deuxièmement, on a des sujets qui, du fait de leur maladie, souvent par exemple de la dépression, ont une altération de la capacité à se faire soigner, à se faire suivre et donc à prendre en charge leur santé somatique et de faire des efforts de ce type-là d'une façon la plus appropriée possible. Et puis troisièmement, on a un certain nombre des médicaments qu'on emploie qui peuvent entraîner des prises de poids et qui nécessitent une attention très particulière dans leur modalité d'utilisation. Donc en fait, on a vraiment la conjonction de ces trois facteurs-là qui vraiment augmentent le risque de manière très conséquente de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est la conjonction d'une hypertension, de modification de du sucre dans le sang et des graisses dans le sang, avec donc des manifestations qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, donc des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, et donc on a vraiment ce risque-là. Et bien sûr, c'est sur le temps long, mais c'est vraiment des facteurs qui s'associent les uns avec les autres pour augmenter le risque.
Alors, quelles sont les causes de cette pathologie ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture avec Pierre-Michel Lorca et Chantal Henry, nous parlons de troubles bipolaires. On vient de voir qu'il s'agit d'un trouble de la régulation de l'humeur. En médecine, on parle d'élation de l'humeur pour désigner les phases d'excitation ou d'euphorie avec des émotions intenses, mal régulées. Chantal Henry, à l'origine, le trouble bipolaire était appelé donc psychose maniaco-dépressive. C'est un terme qui était apparu au 19e siècle. Comment la bipolarité a-t-elle été formalisée?
On a repéré finalement assez tôt qu'il y avait des épisodes dépressifs ou des épisodes d'exaltation, mais on a mis pas mal de temps pour repérer que ça pouvait apparaître dans une même maladie. Alors, il y a quelques aliénistes français qui ont été à l'honneur, mais c'est Kraepelin, qui est un psychiatre allemand, qui a réellement défini ce qu'il a appelé à ce moment-là la psychose maniaco-dépressive, où les patients pouvaient alterner, donc avoir des phases dépressives et des phases d'exaltation maniaque. Il n'y avait pas de traitement à l'époque, donc il a fait de magnifiques observations, mais les patients pouvaient avoir des dépressions qui pouvaient durer des mois, voire des années. Certains décédaient d'ailleurs, ils n'arrivaient plus à se nourrir, à s'hydrater, et puis il y avait des phases d'exaltation maniaque qui étaient la plupart du temps délirantes.
Pierre-Michel Lorca, en effet, Émile Kraepelin, ce psychiatre allemand considéré comme l'un des fondateurs de la psychiatrie scientifique moderne, a distingué alors, entre 1890 et 1900, il distingue deux grandes entités psychiatriques.
Oui, en fait, il évoque, il décrit, alors c'est un contemporain et un collègue de travail de Alois Alzheimer, et donc en fait, il raisonne sur ces modèles le cerveau étant au centre de sa conceptualisation, il observe de manière très précise les patients, et il a écrit de nombreux traités, de réactualisation de son traité, 8 versions, et en fait, il décrit d'un côté ce qu'il a appelé, lui, la démence précoce, dans cette logique par rapport à Alzheimer d'une neurodégénérescence, et qui en fait décrit ce qui a été appelé par un autre psychiatre de cette époque, Bleuler, qui a été appelé la schizophrénie. Et de l'autre côté, cette dimension de variation de l'humeur, donc avec cette dépression et ces phases d'exaltation, il parle de psychose maniaco-dépressive. Il utilise le terme psychose parce que, comme l'a dit tout à l'heure Chantal, il y avait probablement dans les formes qu'il observait des formes avec des éléments délirants très importants qui étaient intenses. Et lui dit ce sont deux entités. On ne sait pas ce qui va pas dans le cerveau quand on les compare, mais puisqu'on n'arrive pas à étudier le cerveau comme on l'étudie aujourd'hui maintenant, mais il dit c'est vraiment deux maladies différentes et il trace cette ligne de partage. Alors peu de temps après, dans les années 20, il y a un autre auteur, Cazanin, c'est pas important, qui décrit les troubles schizoaffectifs parce qu'on sait que en fait cette séparation est pas aussi simple que ça. Mais c'est vraiment lui qui pose les pierres de cette distinction qui reste quand même si les points de convergence peuvent exister entre les maladies, qui reste quand même très actuel aujourd'hui dans la façon dont on regarde ces troubles.
La fameuse dichotomie kraepelinienne qui est encore d'actualité, mais alors c'est dans le DSM-3 que le terme trouble bipolaire est utilisé pour la première fois de manière officielle. En psychiatrie, les diagnostics sont essentiellement fondés sur l'observation des symptômes. Chantal Henry, comment pose-t-on un tel diagnostic? Comment on identifie une dysrégulation émotionnelle?
Alors, la psychiatrie est une médecine à main nue, en fait. C'est uniquement basé sur des entretiens qui vont rechercher des signes cliniques. Et donc, des phases... généralement, les patients arrivent en consultation pour chercher des soins pendant les phases dépressives ou arrivent via les urgences lors des épisodes maniaques. Et donc, on va lister finalement des symptômes, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup, mais on en parlera peut-être après, de tests pour aider au diagnostic. Mais ça arrive, des choses arrivent. Donc c'est un diagnostic clinique, on n'a pas pour l'instant ou peu d'examens complémentaires en tous les cas pour confirmer ou infirmer le diagnostic.
C'est parce qu'on parle d'une errance diagnostique de 8 à 9 ans. Pierre-Michel Lorca, c'est énorme.
Oui, c'est très long et ça vient de ce qui vient d'être évoqué, qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est premièrement, d'abord, on est sur une maladie qui, comme l'a dit Chantal, est récurrente. Et en fait, ce qui porte le diagnostic, c'est aussi la récurrence, donc la répétition des épisodes. Et donc, bien évidemment, c'est le temps. Et c'était un peu la même idée que par rapport à la démence, pour Craeplein, il fallait observer et c'était l'évolution qui tranchait. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis deuxièmement, comme on l'a dit, les épisodes d'hypomanie, cette intensité moindre de l'exaltation de l'humeur, est difficile à identifier pour plein de raisons. Elle a toujours été difficile à identifier. Et en fait, vraiment, on a pu rendre à peu près opérationnels les critères assez récemment, il y a une cinquantaine d'années, pour arriver à identifier. Donc c'est pour ça qu'on a cette errance. Et comme je le disais, souvent, les épisodes dépressifs sont soignés en médecine de soins primaires et l'identification clinique au moment de l'examen en fait est souvent celle de l'épisode dépressif et le recueil de toute l'histoire des moments où le patient ou la patiente avait une énergie qui n'arrêtait pas mais qui était plutôt très utile pour réussir dans sa vie professionnelle, ses études, en fait elle n'est pas fait parce que ça prend un peu de temps, parce que souvent il faut en discuter avec l'entourage et en fait ça passe inaperçu. Donc en fait on est vraiment dans cette problématique, la dépression est facilement vue, mais c'est la répétition des épisodes qui est problématique. Et comme on n'a pas de biomarqueur on commence à avoir des éléments, mais on reste encore assez loin de ce qui peut exister dans d'autres disciplines médicales, on est dans cette problématique-là de cette errance diagnostique et de ce risque de longue durée avant un traitement le plus adéquat possible.
On reviendra dans quelques instants sur la recherche de biomarqueurs fiables, les marqueurs biologiques mesurables. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc ça arrive qu'un patient soit diagnostiqué à tort comme étant simplement entre guillemets dépressif. Mais quelles sont les conséquences de ces erreurs de diagnostic, Chantal Henry?
Ça va être le traitement, en fait. Alors, il y a quand même des indices, je pense qu'il y a des indices cliniques dont il faut parler pour rechercher des choses qui vont pouvoir évoquer la bipolarité. Quand on a un patient dépressif, notamment si ce patient a un épisode dépressif à un âge jeune, s'il y a des récurrences dépressives, au moins 3 épisodes dépressifs, s'il y a des antécédents familiaux de troubles bipolaires, si ça survient en postpartum chez la femme, ou si on a des réponses un peu particulières aux antidépresseurs. Soit une réponse spectaculaire, c'est-à-dire au bout de 15 jours, le patient va super bien avec un antidépresseur, alors qu'on sait que les antidépresseurs ont un délai d'action. Soit au contraire, qu'on va avoir de mauvaises réponses, voire une aggravation sous antidépresseur. Et là, ce sont des warnings pour dire, attention, cette dépression rentre peut-être dans le cadre d'un trouble bipolaire. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a des repères cliniques qui vont pouvoir, c'est ce qu'on appelle des indices de bipolarité, qui vont pouvoir nous dire, attention.
Par rapport à ces repères cliniques, on voit aussi que les personnes bipolaires de type 1 sont donc parfois confondues avec des schizophrènes. Comment on fait la différence justement entre les deux ?
Alors en général, la symptomatologie, un épisode maniaque va souvent débuter de manière extrêmement brutale, en fait, avec une symptomatologie très bruyante qui va conduire à l'hôpital avec une grande agitation. Il n'y a pas toujours des symptômes psychotiques, en fait, dans les épisodes maniaques. On considère que on va en avoir dans 50% des cas. La schizophrénie va débuter souvent de manière beaucoup plus insidieuse, même si, à un moment donné, il peut y avoir un certain état d'exaltation lorsqu'il y a une émergence du délire.
Alors, parmi ce faisceau de repères cliniques que vous venez d'évoquer, il y a cette forte composante familiale, Pierre-Michel Lorca. Ce n'est pas une maladie génétique, mais c'est une maladie avec des facteurs génétiques. Nous avons perdu Pierre-Michel Lorca, il me semble.
Ah,
si, non, c'est bon, vous êtes avec nous.
Non. Oui, je vous entendais. Non, je disais, ce n'est pas une maladie génétique au sens de la transmission génétique autosomique dominante ou récessive, mais c'est plutôt une maladie pour laquelle on a une vulnérabilité. Ça a été évoqué tout à l'heure, et cette vulnérabilité fait que il y a une surreprésentation dans certaines familles. Donc en fait, il y a un risque accru, et les antécédents sont toujours importants à recueillir, mais avec toujours. C'est aussi difficile parfois parce que quand on interroge sur les antécédents, ben on parle souvent de dépression, mais on ne sait pas exactement de ce dont il s'agit. Alors par exemple, les antécédents de tentative de suicide ou de décès par suicide sont aussi parfois difficiles à identifier parce que dans les familles, il n'y a pas forcément une connaissance précise de cela. Donc c'est vrai que ça demande, c'est très important, les antécédents familiaux, c'est très important à rechercher parce que c'est un indice majeur, mais avec parfois des difficultés de recueil.
Dans la population générale, la prévalence du trouble bipolaire, c'est entre 1 et 3%, mais lorsqu'on a un parent bipolaire, on passe à 10%. Si on a deux parents bipolaires, ça monte à 30%, donc ça montre bien qu'il y a une part génétique dans cette maladie.
Oui, mais comme le disait Pierre-Michel, il n'y a pas des gènes majeurs, en fait, qui, avec un gène, on va avoir cette pathologie bipolaire. Donc ça va être une interaction gène-environnement, et en fait, la recherche en génétique progresse, mais on a de multiples régions sur les gènes qui sont associés à cette pathologie. Donc voilà, c'est une pathologie que l'on dit polygénique, avec plein de gènes en fait qui vont être modifiés, qui vont participer à la genèse de ce trouble, mais il faudra aussi des facteurs environnementaux. Et c'est important d'insister sur le fait que même si on a un parent bipolaire, 90% des cas, bien sûr, on ne va pas développer la pathologie et on n'aura pas forcément la pathologie en fait de ses parents.
Vous disiez aussi tout à l'heure que l'âge d'apparition peut aussi être un indice.
Oui, bien sûr. Alors, on peut avoir des événements de vie qui vont faire qu'on va présenter un épisode dépressif. On estime que 5% de la population fera au moins un épisode dépressif caractérisé dans sa vie, donc nécessitant une prise en charge, alors que des épisodes plus précoces sont peut-être plus doivent alerter.
Pierre-Michel Lorca, quelle est la physiologie, la physiopathologie de la bipolarité et que connaît-on finalement des mécanismes biologiques en jeu ?
Alors ça, c'est une vaste question. On connaît un certain nombre de choses, mais il n'est pas facile de décrire exactement la physiopathologie de la maladie. En fait, ce qu'on peut dire, pour faire très simple, et ça c'est plutôt des études d'imagerie fonctionnelle qui ont pu mettre en évidence qu'il y a un déséquilibre, et c'est assez fréquent dans beaucoup de troubles psychiatriques. Dans la schizophrénie, on peut observer ce type de déséquilibre entre des régions profondes du cerveau, et en particulier dans ce qui le concerne dans la bipolarité, une hyperactivité au niveau de ce qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire les zones plus profondes du cerveau, et des modifications d'activité, plutôt dans le sens d'hypoactivité ou de fluctuation d'activité, des zones superficielles, donc le cortex. Et donc c'est souvent ce déséquilibre-là qui, donc dans un certain nombre de cas, puisqu'en fait c'est des éléments qui nous permettent de nous adapter à notre environnement, de moduler, comme je le disais, les émotions sont quelque chose qui nous permettent de moduler notre relation avec notre environnement. Les événements nous rendent tristes, nous rendent gais, entraînent des comportements qui sont adaptés à ces événements-là, et donc ça nous aide à nous adapter. Et malgré tout, on a besoin en permanence de gérer les informations qu'on reçoit et la manière dont on va se comporter par rapport à cela. Et donc c'est donc cette mécanique extrêmement sophistiquée qui se perd son équilibre et donc avec des zones cérébrales qui, alors c'est schématique de localiser, mais en tout cas qui ont des activités qui sont anormalement équilibrées, donc déséquilibrées. Je sais pas si c'est pas très facile à expliquer comme ça, mais c'est quand même ce qu'on peut retrouver comme une modalité explicative de ce qu'est la physiopathologie du trouble bipolaire, et donc avec aussi des variations, puisqu'en fait il y a quand même un autre élément, hein, c'est qu'il y a des fluctuations, ces épisodes, avec aussi parfois chez certains patients des fluctuations saisonnières, et donc qui ont à voir avec la manière dont notre environnement réagit au rythme, à l'alternance jour-nuit, mais aussi au passage des saisons et avec des fluctuations qui peuvent être plus ou moins marquées selon les individus.
Chantal Henry, pour compléter.
Oui, effectivement, Pierre Michel insiste sur le fait qu'il y ait des saisons. Alors, je parlais tout à l'heure des épisodes dépressifs, en fait, qui peuvent être déclenchés par un événement de vie négatif. Mais chez les patients bipolaires, c'est là que la vulnérabilité se révèle. C'est-à-dire que certains vont avoir une dépression simplement parce que c'est l'hiver, en fait. Voilà, donc la vulnérabilité, on peut la sentir. On n'a peut-être pas assez insisté sur la dépression, en fait. Je vais rebondir sur le magnifique livre de Nicolas Demorand, qui a fait donc qui a annoncé sa bipolarité. C'est important cette prise de parole pour les patients parce que Nicolas Demorand incarne la régularité, le sérieux, et donc il a dit qu'il souffrait d'un trouble bipolaire, et dans son bouquin que je recommande, dont je recommande la lecture, il explique ce que entraîne la dépression. Donc on a beaucoup parlé des épisodes d'exaltation parce que c'est ce qui permet de faire le diagnostic, mais c'est vrai que les patients sont très entravé par ces épisodes dépressifs.
Alors comment justement prendre en charge les épisodes dépressifs dans le cas de ces troubles bipolaires? Quels sont les traitements et les différentes stratégies thérapeutiques? Restez avec nous. Slick, you want me to fuck that bitch, you had told bands to get her. I ain't understand, thang one of them ones, and he ain't friends with niggas. Once you lack your dog, it hit your back, that's why I'll be playing with niggas. Watch them niggas close, what you don't know, it be your mans to get you. Get retainers, not that shit from the dentist, fix his lawyer issue. That shit crazy, just get out his cell, here sign your initials. Said this shit so long, like bro, hold on, make sure the doctor get you. I just speak my mind, case you don't know, this shit ain't competition. He not from the streets, he mad at me, cause I don't let him hop in pitch. One thing that I know, when you from that bottom, I know top will get you. Got on my Apple Watch just to check his heart, cause this shit pumping different. I did real shit, but you gave your loyalty straight to another nigga. My grandma had told me she keep me in her crib. Got out of jail, you ain't send me nothing, spent my last on a hotel. Why you reject my mail? Found out J Money got killed. He was dead when I signed my deal. I was sad I took that L. This shit get ugly. Deep Depression de Lil Durk en direct sur France Culture, car nous parlons de bipolarité, cette maladie mentale avec une alternance de phases de dépression et d'épisodes d'exaltation. On en parle avec Chantal Henry, professeure à l'Université Paris-Cité, praticien à Sainte-Anne, directrice scientifique de la Fondation Deniker, et Pierre-Michel Liorca, psychiatre, professeur de psychiatrie, chef de service au CHU de Clermont-Ferrand. On vient de parler des différents symptômes du trouble bipolaire. Maintenant, à présent, parlons des traitements. On a de nombreux traitements pour la bipolarité. Ils peuvent être à la fois psychosociaux et médicamenteux. Quels sont d'abord les traitements psychosociaux, Chantal Henry?
Alors, les traitements psychosociaux, bien évidemment, on va donner à un patient bipolaire, on va lui prescrire des traitements médicamenteux, mais bien évidemment que ces traitements médicamenteux doivent être entourés. Alors, il y a le premier type de prise en charge, c'est la psychothérapie dite de soutien, où on va très régulièrement voir un patient bipolaire. Il va falloir apprendre à le connaître, à lui faire apprendre sa pathologie. Il y a même des thérapies dites d'éducation thérapeutique, où on va pouvoir donner le plus possible de clés au patient pour qu'il repère des symptômes annonciateur de ces décompensations. On peut d'ailleurs faire cette éducation thérapeutique pour les patients, mais également pour les apparentés ou pour les proches ou pour ceux qui vivent avec un patient bipolaire. Et puis ensuite, il y a tout un tas de thérapies, en fait, qui, en fonction des personnes ou des symptômes présentés, des thérapies souvent brèves, dites des thérapies type cognitivo-comportementales, qui vont soit s'adresser à des symptômes dépressifs résiduels, soit des symptômes anxieux qui sont souvent associés aux troubles bipolaires. Donc ça, et puis il y a plein d'autres thérapies, mais en tous les cas, voilà, on a un arsenal thérapeutique, en fait, à notre disposition, qui malheureusement ne sont pas toujours à disposition partout ou accessibles partout en France. Et ça, c'est un problème.
Et on voit une pénurie de médecins, une désaffection croissante des jeunes internes pour cette spécialité, fermeture massive des lits. On voit aussi que la psychiatrie en France est en mauvaise santé. Pierre-Michel Liorca, du côté de l'arsenal médicamenteux, sur quoi peut-on s'appuyer ?
Alors, on a des traitements qui ont été historiquement identifiés comme efficaces dans la bipolarité. Alors, le patient tout à l'heure parlait des épisodes maniaques pour lesquels on lui donnait des neuroleptiques. Et effectivement, les neuroleptiques dites première génération, comme par exemple la loperidol, étaient des médicaments qui étaient utilisés, qui avaient l'indication dans les épisodes maniaques, qui réduisaient l'agitation, mais qui avaient beaucoup d'effets indésirables. Et puis, mais ils sont arrivés, on les a découverts depuis le début. Fin des années 50, début des années 60, et donc en fait, ils ont été largement utilisés. Puis d'autres médicaments sont apparus, plus spécifiques, comme le lithium, dont la découverte a été assez étonnante et dont l'utilisation est spécifique et dans les épisodes aigus, mais aussi pour prévenir les rechutes, puis des médicaments comme des anticonvulsivants avec des théories intéressantes sur comparant l'état du cerveau du patient présentant un épisode maniaque comme un état d'embrasement qui, par analogie, sera assez proche d'une crise d'épilepsie. C'est des théories anciennes des années 80, mais qui ont permis de réfléchir à l'utilisation de ces antiépileptiques dans le traitement du trouble bipolaire. Puis sont apparus les antipsychotiques de seconde génération depuis la fin des années 90, qui ont l'indication et donc qui permettent les traitements à la fois de la dépression et à la fois des épisodes maniaques. Donc, vous voyez, on a trois grandes catégories de médicaments. Le lithium, qui est une catégorie à lui seul, qui est un ion, qui n'est pas une molécule comme les autres, et qui est un sel, donc tout simplement. Les antiépileptiques et les antipsychotiques sont de génération. Puis on utilise parfois d'autres molécules, d'autres catégories de molécules sur dans des situations bien particulières, mais qui sont beaucoup plus rares et réservées à des stratégies très sophistiquées lorsqu'on a des formes un peu répondant mal au traitement. Voilà un petit peu les grandes catégories qui sont maintenant des catégories qu'on connaît assez bien et donc on connaît les avantages et inconvénients qui sont assez différents d'une catégorie à une autre.
Bien justement, dans la prise en charge de la bipolarité, les traitements de référence ne présentent pas la même efficacité selon le profil du patient. Pour le reportage du jour, nous sommes allés découvrir une voie de médecine personnalisée à la faculté de pharmacie de l'université Paris-Cité. Et c'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, oui. Devant l'inégale efficacité du lithium, traitement le plus répandu actuellement face aux troubles bipolaires, l'équipe du docteur Cynthia Marie-Claire, associée au professeur Franck Bellivier, a mis au point une technique épigénétique qui détermine la qualité de la réponse au traitement aux sels de lithium. Sachant que cette efficacité totale ne concerne que 40% des patients environ, ce test ouvre la voie vers une prise en charge personnalisée avec l'avantage d'un gain de temps considérable, réduisant ainsi pour beaucoup une longue errance thérapeutique.
La faculté de pharmacie qui se trouve donc dans le 6e arrondissement à Paris. Et donc les laboratoires de recherche sont dans cette faculté. On va descendre puisque les bureaux ne sont pas au même endroit que les labos.
Le constat que l'on a fait avec ce traitement de référence est le suivant. C'est un médicament qui est absolument miraculeux chez certains patients, qui éteint toute manifestation de la maladie, et ce pendant des années, parfois des décennies, alors que chez d'autres, ce traitement, alors même que le traitement est pris pendant un ou deux ans, ne manifeste aucun effet bénéfique pour stabiliser ces cycles infernaux de l'humeur. Et l'ambition, c'est d'être capable de mieux prédire quel médicament doit être prescrit à quel patient. Avec une quinzaine de centres en Europe, avec 9 pays participants, pour justement identifier des biomarqueurs prédictifs de la réponse au lithium. L'ambition, c'est de pouvoir mettre au point des tests dits compagnons que l'on va pouvoir administrer aux patients au moment où on se propose de lui prescrire du lithium, afin de prédire s'il est plutôt dans la catégorie des très bons répondeurs ou plutôt dans la catégorie des non-répondeurs, et auquel cas on lui proposera d'emblée une autre stratégie thérapeutique.
En fait, l'idée, c'est, comme disait Franck, c'est d'avoir des biomarqueurs. Jusqu'à il y a quelques années, avant qu'on commence ce programme, il y avait essentiellement des gènes candidats qui avaient été testés.
Donc il y avait une hypothèse génétique à la réponse au lithium. Donc ces données, on a participé à un énorme consortium mondial où en fait on a identifié des mutations qui seraient présentes chez certains patients qui répondent au lithium. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de l'épigénétique, qui donc est la modification de l'expression d'un gène par l'environnement sans mutation du gène. Donc l'idée, c'était, est-ce que les patients qui prennent du lithium ont des marques épigénétiques particulières comparativement, c'est-à-dire ceux qui répondent, ont-ils des marques différentes de ceux qui ne répondent pas ?
En quoi consiste ce test épigénétique ? Quel tissu on
Donc,
va...
c'est à partir de sang de patients, on va extraire l'ADN et ensuite on va réaliser une technique qui est la PCR, qui est spécifique des marques épigénétiques.
Ce qui est important de comprendre, c'est que ce résultat, même s'il est préliminaire, c'est un signal très important pour la suite. Ça veut dire que c'est possible d'identifier une signature biologique dans le sang périphérique des patients qui permet de discriminer des répondeurs de non-répondeurs. Pour que ce soit opérationnel dans la prise en charge dite de précision, dans la personnalisation des traitements, il faut bien sûr que ce résultat soit répliqué dans une population qui serait au début d'un traitement par lithium, afin qu'on puisse prédire ce qui va se passer dans les 2 années qui viennent. Donc ce résultat, il est préliminaire et il demande une réplication. Et c'est justement une des priorités des données que l'on a recueillies dans ce projet européen, qui lui a collecté des biomarqueurs en imagerie cérébrale et dans le sang périphérique, avant et juste après l'initiation du lithium, qui a ensuite suivi les patients pendant 2 ans. Nous allons tester ce type de signature moléculaire en priorité dans ce nouvel échantillon. Et donc, ça sera à la fois un exercice de réplication, donc de consolidation de ce résultat, mais en plus dans un design d'étude qui est celui qu'on voudra transposer en clinique ensuite, c'est-à-dire on étudie ces biomarqueurs autour de la période où le lithium est initié, et on veut être capable de prédire ce qui va se passer après.
Donc ici, nous sommes dans une pièce dans laquelle nous préparons toutes les qPCR. Donc vous avez ici un robot distributeur qui permet de distribuer les plaques. Ce sont des petites plaques de 384 puits. Et ici, des paillasses sur lesquelles on prépare les ADN qui vont ensuite être mis dans les plaques pour faire les PCR. Donc ici, le laboratoire principal, qui est un laboratoire de biologie moléculaire. Donc voilà, donc tous les ADN que nous avions prélevé chez les patients. Donc c'est une étude qui a été faite, qui a été quand même répliquée sur 2 échantillons indépendants, un échantillon de 60 patients et un deuxième échantillon de 80 patients, sur lequel nous avons récolté les ADN. Les ADN ont été traités ici. Et ensuite, les PCR quantitatives ont été préparées dans la première pièce que nous avons vue. Et ensuite passer sur une machine qui se trouve dans un autre bâtiment encore. Donc voilà.
Ces deux résultats obtenus sur 2 échantillons indépendants ont fait l'objet d'une publication et d'un dépôt de brevet ?
Tout à fait. Donc il y a même 3 publications, 2 brevets, enfin 2 dépôts de brevets et finalement 1 brevet qui sera maintenu par l'INSERM.
Ce qui indique simplement que même si ces résultats demandent à être répliqués, ils ont été jugés suffisamment solides pour justifier d'être protégés. On voit si effectivement ces premiers résultats très encourageants vont pouvoir être constitutifs de ce qu'on appelle un test compagnon, c'est-à-dire quelque chose que l'on va transposer au lit du malade dans la réalisation de ces tests pour prédire quel traitement on doit prescrire à quel patient.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France, bien sûr. Chantal Henry, une réaction à ce qu'on vient d'écouter ?
Oui, alors bien sûr, même si ce sont des résultats très préliminaires, c'est extrêmement encourageant parce qu'en psychiatrie, comme dans les autres disciplines, on attend des marqueurs de réponse au traitement. Alors comme le disait Franck Bolivier, en fait, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment ces biomarqueurs. Il y en a des réponses qui sont très disparates pour des patients qui vont être extrêmement bons répondeurs. Alors on a des indices cliniques quand même, en disant si un apparenté a un trouble bipolaire, s'il a bien répondu au lithium ou certains types de pathologies, on sait qu'on va avoir beaucoup plus de chances que le patient réponde au lithium avec vraiment une stabilité de l'humeur. Alors je serais un tout petit peu plus optimiste que Franck Bolivier. Très souvent, en fait, on a des réponses partielles, mais pas des réponses chez les patients qui sont moins bons répondeurs. Donc c'est tout à fait essentiel. Et c'est comme ça qu'on a fait progresser la médecine, notamment en cancéro, où on a des marqueurs spécifiques et on va avoir des traitements dits personnalisés.
Alors quel est le futur pour le diagnostic et la prise en charge de la bipolarité? On continue d'en parler.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Chantal Henry et Pierre-Michel Lorca, nous parlons du trouble de la bipolarité. On vient d'évoquer la difficulté de diagnostic de cette maladie mentale. Un test, le test Edith B, est actuellement mis sur le marché. Il permet de différencier le trouble unipolaire du trouble bipolaire. Il présente une bonne sensibilité, une fiabilité à 80% avec une simple prise de sang et un délai d'analyse d'un mois. Bon, il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale et il est disponible pour la modique somme de 900 euros. Pierre-Michel Lorca, cet outil vous semble insatisfaisant pour le moment? Au-delà de son prix, bien sûr.
En fait, c'est un outil tout à fait intéressant et qui va dans le sens de tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent, avec une technique qui permet justement d'utiliser un algorithme particulier issu de travaux qui ont été menés dans la compagnie Alcidia qui a beaucoup travaillé sur l'ARN et cette évolution-là. Après, à l'heure actuelle, les résultats sont avec une sensibilité, une spécificité qui varie entre 80 et 90%, ce qui est déjà très bien. Simplement, la problématique, et c'est d'ailleurs un travail que mène le professeur Chantal Henry, puisqu'il y a une étude qui devrait aboutir l'année prochaine pour vérifier dans des conditions optimales l'intérêt spécifique qui permet de l'utiliser véritablement comme un biomarqueur et donne la possibilité de soumettre à nos autorités de tutelle qui gardent les gardiens du temple et de l'argent du contribuable et de la collectivité, la possibilité de remboursement. Donc je crois que ce qui est important, c'est que cette étude est en cours. C'est exactement la même logique que ce qui était évoqué par le professeur Bélivier tout à l'heure. Eh bien, les résultats initiaux sont encourageants. Il faut maintenant passer à une étape qui permette de confirmer l'intérêt spécifique qui permettront justement l'accès au plus grand nombre. Donc je crois qu'on est vraiment... C'est juste, je pense qu'il faut être optimiste parce qu'on voit que des vrais progrès se font avec ces différentes stratégies, mais il faut véritablement le confirmer. Et en fait, c'est le principe de la science. Il faut répliquer les données initiales dans d'autres échantillons de manière à confirmer les résultats préliminaires, parce que les résultats préliminaires, malgré tout, sont toujours parfois encourageants, mais non confirmés. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très fort. Et je crois que c'est un enjeu actuel dans les deux cas qui ont été développés et qui montre l'évolution vers cette psychiatrie de précision.
Chantal Henry, ce test s'appuie sur l'analyse de 8 ARN spécifiques dans le sang, c'est ça?
Oui, alors d'ailleurs, comme l'évoquait dans le reportage Franck Bolivier, c'est aussi de l'épigénèse en fait, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un marquage dans le sang. Alors là, actuellement, il y a deux études qui montrent une spécificité, une sensibilité correcte. Il y a une troisième étude européenne qui permet une réplication, mais voilà, à l'heure actuelle, en fait, la recherche avance. Alors là, actuellement, on a une très bonne sensibilité, spécificité, donc dans 3 études, mais de toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, c'est un test qui est une aide au diagnostic. Il n'y a pas un test spécifique, mais comme on va le faire par exemple dans le cancer du côlon, vous avez des tests qui vont dire attention, vous avez un risque et à ce moment-là, vous allez faire une coloscopie. Donc l'idée, c'est que bon, nous on n'a pas de coloscopie du cerveau, mais en tous les cas, c'est si ce test est positif, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il puisse être développé à plus grande échelle et avec un coût moindre, bien évidemment, ça serait d'accéder beaucoup plus rapidement dans une filière de soins spécialisés, parce que le diagnostic, pour l'instant, restera clinique, bien évidemment, mais ce qui explique ce délai de diagnostic, c'est que très souvent, les patients restent dans les soins en médecine générale, en fait, alors que le diagnostic de trouble bipolaire est un diagnostic de spécialiste, en fait. Et donc, l'idée, ça serait de réduire ce temps jusqu'à l'accès du psychiatre qui, de toute façon, c'est lui qui confirmera ou infirmera le diagnostic. Ça reste un diagnostic clinique.
Donc on parle d'aide au diagnostic. Par contre, on a des progrès assez importants dans les soins, des avancées technologiques, notamment sur la stimulation magnétique transcrânienne qui se pratique en cure, qui est non invasive. En quoi consiste cette méthode, Chantal Henry?
Alors, c'est une technique non invasive en fait qui permet de stimuler sur le crâne en fait en envoyant des impulsions magnétiques et qui va permettre de stimuler des régions régulatrices. C'est ce dont parlait tout à l'heure Pierre-Michel. Il y a des structures profondes en fait qui génèrent les émotions. Et il y a des structures régulatrices et donc on va agir sur ces structures régulatrices et donc il y a différentes modalités. Là aussi, c'est pas accessible partout. Et ça reste un problème.
En tout cas, il y a cette méta-analyse parue en 2021 dans Journal of Affective Disorders qui montre l'efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne dans la dépression bipolaire. Côté recherche en cours, Chantal Henry, vous avez créé le réseau des centres experts bipolaires et en ce moment à l'Université de Paris-Cité, vos recherches se concentrent sur les mécanismes sous-jacents de ces troubles.
Oui, alors maintenant je travaille à Pasteur, effectivement, ben c'est Pierre-Michel qui a pris le relais pour les centres experts bipolaires. Et là, actuellement, je suis revenue en neurosciences, parce que j'avais fait une thèse de neurosciences, et je travaille sur les mécanismes, et on explore chez la souris, en fait, une petite structure, l'amygdale, en fait, qui gère les émotions. Et alors, chez l'animal, on ne peut pas demander à l'animal s'il est euphorique ou triste, mais par contre, ce que l'on sait, c'est que dans les épisodes dépressifs ou maniaques, on a une modification de la perception en fait des stimuli émotionnels. Dans la dépression, on a ce qu'on appelle un biais de négativité, c'est-à-dire ce qui est plaisant habituellement perd cette valeur hédonique en fait, et ce qui est déplaisant l'est encore plus. Alors ça, bon, c'est des choses qui sont bien connues en clinique. Et pour la souris, en fait, si on la met face à des stimuli des odeurs en fait, en l'occurrence plaisantes ou déplaisantes, eh bien chez une souris que l'on va déprimer en fait, on va voir que la souris dépressive va perdre sa capacité à éprouver du plaisir, enfin ira moins vers des odeurs plaisantes. Et donc ça nous permet d'avoir accès à ces structures et en stimulant ou inhibant des neurones très spécifiques, on aborde comme ça les mécanismes intimes d'un élément fondamental dans les troubles de l'humeur.
Pour mieux comprendre les circuits neuronaux impliqués.
Exactement, voilà.
On arrive vers la fin de cette discussion. Ça me semble un point important à aborder avec vous, Chantal Henry. C'est cette autre façon d'améliorer la prise en charge de la bipolarité, c'est la déstigmatisation. Selon vous, il faut développer d'autres types de discours pour déstigmatiser justement cette pathologie?
Oui. Alors la première chose et la plus importante, c'est la prise de parole des patients. Et donc encore un grand bravo et merci à Nicolas Demorand, parce que je pense que ça fait beaucoup bouger les choses, que les patients en parlent de manière positive, que des personnalités en fait puissent parler de leurs troubles. Alors au sein de la Fondation Denis Kerr, on a créé une session qui s'appelle le Divan des Arts, et l'idée c'est pour déstigmatiser, en fait, c'est très bien les émissions que vous faites, voilà, des professeurs qui viennent parler de bipolarité, mais c'est important aussi, nous on essaie de parler de la bipolarité par le biais de la culture, et donc soit de soutenir des actions en fait culturelles, soit de parler en fait de littérature ou de d'œuvres cinématographiques qui vont parler de manière pertinente des troubles mentaux.
Et vous organisez en l'occurrence les sessions sur le divan des arts.
Exactement.
Voilà comment la culture peut faire évoluer les mentalités également. Alors comme tous les jours, on retrouve Alexandre Morales pour sa chronique, mais un grand merci à vous deux. Maintenant, on quitte la psychiatrie pour la paléontologie avec l'extinction des dinosaures. C'est la chronique avec science.
Les dinosaures ont-ils commencé à décliner avant la chute de la météorite ? Aujourd'hui, plus personne ne conteste le rôle prédominant de la fameuse météorite qui aurait conduit à l'extinction des dinosaures à la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années. Pour rappel, la violence de l'impact aurait soulevé de telles quantités de poussière dans l'atmosphère qu'elle aurait occulté les rayons du soleil durant des mois, ce qui aurait mené à la mort d'une partie de la flore, suivie de la disparition des grands herbivores et enfin des grands carnivores. On estime que plus de 80% des espèces végétales et animales, dont les dinosaures nonaviens, auraient définitivement disparu de la surface de la Terre à ce moment-là. Les dinosaures nonaviens, ce sont ceux qui ne sont pas devenus nos oiseaux actuels. Ça, c'est ce dont on est sûr, mais un débat fait rage au sein de la communauté des paléontologues sur la possibilité que le règne des dinos ait commencé à décliner avant même le fameux cataclysme. La météorite n'aurait alors été que le coup de grâce menant à leur extinction. Alors, la difficulté de ce débat réside dans les connaissances très parcellaires que nous avons de ces animaux qui ne nous sont parvenus que sous la forme de quelques fossiles. Éric Buffetot est paléontologue, spécialiste des vertébrés fossiles, y compris des dinosaures, et il est directeur de recherche émérite au CNRS.
La plupart des études sur les changements de diversité des dinosaures à la fin du Crétacé ont été réalisées en Amérique du Nord, hein, dans l'ouest de l'Amérique du Nord, sans tenir beaucoup compte de ce que l'on connaît dans le reste du monde. Alors pourquoi ça? Parce que l'ouest de l'Amérique du Nord et du Canada vivent des dinosaures de cette époque, hein, de la fin du Crétacé, depuis longtemps et en grande quantité. Donc il y a un matériel considérable sur lequel on peut travailler. Seulement, ça ne représente quand même qu'une petite partie du monde et c'est un peu difficile d'extrapoler à toute la Terre ce que l'on observe simplement dans l'Ouest américain. Ça, c'est un des défauts de ce genre d'études. Et effectivement, si on regarde ce qui se passe en Europe, par exemple, on n'a pas l'impression qu'il y ait un paléodéclin. On a des renouvellements, des changements d'espèces, mais il est difficile d'affirmer qu'il y a une baisse de la diversité des dinosaures à la fin du Crétacé.
Et s'il y a bien une baisse de diversité dans les registres fossiles d'Amérique du Nord, est-elle due à une baisse de la diversité des dinosaures ou alors à de mauvaises récoltes fossiles? C'est à cela que tente de répondre un article paru dans la revue Current Biology. Alors, pour faire ça, les auteurs ont analysé 8000 fossiles de la région datant de la fin du Crétacé, donc entre moins 84 et moins 66 millions d'années, et ils se sont concentrés sur quatre grandes familles de dinos. Les ankylosauridés, ce sont les dinosaures cuirassés, les ceratopsidés, représentés par le fameux triceratops avec ses trois cornes, les hadrosauridés, ce sont les dinos à bec de canard, et puis les tyrannosauridés. Pour cela, pas besoin d'explication, je vous fais confiance. Mais alors, si on n'a pas de fossiles, comment estimer leur biodiversité? Bien pour ça, les chercheurs ont créé un modèle numérique de l'Amérique du Nord à cette période, comprenant toutes les données géologiques, climatiques ou végétales connues. Et à partir de ce qu'on sait de la biologie de ces dinosaures, ils ont estimé la probabilité qu'ils soient présents sur ce territoire. Ensuite, ils ont fait le même travail avec des données géologiques pour estimer la probabilité que leur fossiles aient été conservés. Il montre ainsi que les populations se sont probablement maintenues, mais que ce sont les conditions de conservation des fossiles qui se sont dégradées.
La question se pose pour cette période de la fin du Crétacé, à mon avis, beaucoup, parce que quand cette hypothèse de l'impact météoritique lié à l'extinction des dinosaures a été proposée, ça fait maintenant 45 ans, beaucoup de paléontologues ont été extrêmement réticents et très sceptiques parce qu'ils étaient habitués à des théories suivant lesquelles les extinctions, c'était des choses graduelles qui s'étalaient dans le temps. Et là, on leur disait, ben, en fait, les dinosaures, ils se sont éteints en un temps extrêmement court, peut-être en quelques années, à la suite de l'impact. Et la réticence à accepter cette disparition rapide, elle perdure un peu. Et c'est pour ça que certains sont assez satisfaits quand on vient leur dire, eh ben, les dinosaures, ils étaient déjà en déclin depuis des millions d'années et l'impact météoritique, ça a été tout, au plus coup de grâce. Donc des résultats comme ceux dont nous parlons, c'est un peu dur à accepter peut-être pour certains paléontologues, même si de plus en plus la communauté est convaincue de l'importance de l'impact météoritique.
Cette étude nous invite à réviser la façon dont jusqu'à présent nous avons évalué la biodiversité disparue en dépassant les estimations classiques par comptage de fossiles. C'est une ouverture vers de nouvelles approches qu'il faudrait mettre en place sur d'autres périodes temporelles et sur d'autres régions du monde pour s'assurer de la cohérence de ces résultats.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Ali Ruyer-Thompson, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Lou Angers, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui François Saint-Jour. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.